Aujourd'hui, au cours de notre émission, nous sommes avec Michel Topman. Michel Topman est un journaliste, écrivain, connu par nos éditeurs parce qu'il est consultant sur la chaîne israélienne I24. Donc vous avez l'occasion de le voir sur vos écrans de télévision. Il est aussi participe comme journaliste à la revue Politique Internationale, qui est une revue de politique internationale, comme son nom l'indique, destinée surtout au public de diplomates ou de personnalités ou de personnes qui sont en mission dans différents postes à l'étranger et également évidemment à tout public. Et à ce titre, nous avons voulu faire cette émission avec Michel parce que 5 mois après le début de cette guerre, commence à se poser un certain nombre de questions sur l'après-guerre. Comment va être gérée cette bande de Gaza, les 2,5 millions de Palestiniens qui s'y trouvent, une fois que le conflit, un jour ou l'autre, s'arrêtera, il faudra bien gérer cette population, quelle que soit la situation sur le terrain. Et Michel Topman a réalisé récemment un interview pour Politique Internationale d'une personnalité palestinienne bien connue, notamment à Gaza, qui est Mohamed Dahlan. Alors, pour nos auditeurs, d'abord, Michel, pouvez-vous rappeler qui est Mohamed Dahlan ?
Alors, d'abord, juste un mot, j'ai réalisé cette interview pour Politique Internationale, qui est la première revue française dans le domaine de la politique internationale et qui compte quand même plus de 150 000 lecteurs chaque trimestre. Concernant Dahlan, oui. Dahlan est souvent comparé à un autre dirigeant palestinien qui lui est en prison, il est souvent comparé à Barghouti. Alors c'est vrai que tous les deux ont à peu près le même âge, une soixantaine d'années. Tous les deux sont des hommes de la génération de la première intifada, du Fatah. C'est des hommes du Fatah, des nationalistes. Dahlan était le chef des jeunes du Fatah dans la bande de Gaza. Et Barghouti était le chef des jeunes du Fatah en Cisjordanie. Alors tous les deux ont mené la première intifada. Ensuite, leurs destins se sont séparés puisque Dahlan n'a pas participé à la deuxième intifada dans le sens où il n'a pas participé à cette flambée de violence, contrairement à Barghouti qui a été emprisonné et depuis 20 ans a été condamné pour avoir organisé des actes terroristes, notamment contre des civils israéliens. Et Dahlan, lui, aujourd'hui, non seulement il n'est pas en prison, dans une prison israélienne, loin de là, mais il n'est plus persona grata dans les territoires palestiniens depuis plus d'une dizaine d'années, puisque après avoir été le chef de la bande de Gaza pour l'autorité palestinienne au début des années 2000, il était le chef de la sécurité préventive. Il a dû partir lorsque il n'a pas été capable, et ça c'est son grand échec, d'empêcher le Hamas de prendre le pouvoir, et qu'ensuite il s'est opposé à Mahmoud Abbas et qu'il a été il a dû partir et s'exiler. Il a même été condamné lors d'un procès truqué, hein. Il a été condamné pour corruption. On l'a même accusé d'avoir, ce qui est farfelu, d'avoir empoisonné, d'avoir assassiné par empoisonnement Yasser Arafat. Donc il est aujourd'hui exilé donc depuis une dizaine d'années aux Émirats Arabes Unis et il est un des rédacteurs des accords d'Abraham. Il a dans la coulisse beaucoup, beaucoup œuvré ces dernières années en faveur des accords d'Abraham. Donc il y a une continuité dans sa démarche politique de négociations avec les Israéliens depuis les accords d'Oslo jusqu'aux accords d'Abraham.
Très bien. Donc aujourd'hui, il est effectivement posté à Doha.
Aux Émirats Arabes.
Aux Émirats. Et là, depuis les Émirats, il est en contact encore avec les Palestiniens à Gaza. Est-ce qu'il a des personnes qui le représentent ou qui se recommandent de lui encore à Gaza ?
Oui, alors c'est un enfant de Gaza. Il est né à Ramion dans un camp de réfugiés. C'est vraiment il était le leader des jeunes de la première intifada. Il fait partie de ces jeunes gens qui ont grandi sous l'occupation israélienne, qui se sont révoltés contre Israël. Et il est vraiment un enfant de Gaza de ce point de vue-là. Il a conservé des liens. Il a évidemment de la famille là-bas. C'est ce qu'il raconte dans l'interview. Il a des gens de sa famille qui sont morts, comme beaucoup de Gazaouis. Et par l'intermédiaire de son épouse, qui dirige une fondation financée par les Émirats Arabes Unis, il participe à l'aide humanitaire. Et c'est vrai que le fait d'être adossé aux Émirats arabes unis, qui sont richissimes, ça lui donne des moyens d'intervention, je dirais, financiers. Et des camions d'aide humanitaire qui sont financés par les Émirats arabes unis et par lui-même, puisqu'il est, il est riche aussi, arrivent à Gaza. Et donc, il y a un lien. Après, je ne pourrais pas l'évaluer, parce qu'il y a ce que lui dit, et puis il y a la vérification sur le terrain. Mais un journaliste d'Arte, récemment, Stéphane Amar, a fait un reportage dans les territoires du côté de Ramallah, et il a rencontré des gens qui disaient, ben nous, on ne peut pas le dire ouvertement, mais on aimerait bien que Darlan revienne. Il a des partisans, il a des adversaires, voilà. Mais dans le discours qu'il tient, il dit deux choses dans l'interview que j'ai réalisée. D'une part, il dit qu'il ne veut pas occuper de responsabilités politiques. Alors, bon, c'est assez contradictoire avec le fait de continuer à avoir un discours politique, d'avoir une action politique, mais officiellement, aujourd'hui, il ne revendique aucune fonction, et je pense que ce serait maladroit de sa part, ce serait une erreur de se porter candidat, mais il pourrait être, évidemment, en tout cas un homme qui jouerait un rôle important, sinon, au niveau de l'ensemble de l'autorité palestinienne, mais au moins à Gaza, dans la perspective d'une reconstruction de Gaza, si les Émirats arabes unis, les pays qui ont signé les accords d'Abraham et la normalisation avec Israël, prenaient en charge la reconstruction de Gaza.
Oui, tout à fait, parce que ça s'inscrit dans, semble-t-il, un plan plus global que l'administration américaine essaye de mettre en place pour l'après-conflit d'une prise en main de la gestion dans Gaza avec des capitaux effectivement arabes et peut-être même une présence militaire saoudienne ou égyptienne. Tout ça, ce sont des projets qui ne pourront voir le jour qu'effectivement qu'une fois le cessez-le-feu prononcé, ce qui n'est pas encore le cas. Et Darlan, là, pourrait être un des acteurs, il y en a d'autres, qui, du côté des anciens du Fatah, pourraient intervenir, ou en tout cas, il a la qualité de pouvoir être reconnu par les Israéliens comme interlocuteur, puisqu'il a été l'interlocuteur des Israéliens pendant quelques années.
Oui, parce que ce qui compte dans une phase de transition, ce n'est pas la légitimité populaire, puisque il n'est pas question, mais il est impossible même matériellement, d'organiser des élections pour que les Palestiniens puissent, comme ce serait légitime, choisir un jour leurs dirigeants. Mais ce qui est envisageable, dans le meilleur des cas, c'est une transition, comme vous le dites, de peut-être 2-3 ans, un peu ce qu'on a vu au moment avec le Kosovo, c'est-à-dire le temps de reconstruire un État, d'assurer l'ordre et de permettre aux Palestiniens ensuite d'organiser des élections libres et sereines et normales et de pouvoir choisir leurs dirigeants. Mais donc, de ce point de vue, moi je ne peux pas vous dire aujourd'hui que s'il y avait des élections demain, je ne peux pas vous dire que Darlan serait élu, ça n'a pas de sens. Par contre, qu'il puisse être un homme, parce qu'il a la confiance des pays arabes, du Golfe et de l'Arabie Saoudite, peut-être, mais en tout cas des Émirats Arabes Unis, ça c'est sûr, puisqu'il est là-bas. Il a la confiance donc des pays arabes qui ont des relations diplomatiques avec Israël. Il peut avoir la confiance des Américains. Et il est peut-être un des seuls, un des très rares avec lesquels les Israéliens accepteraient de travailler, même si pour l'instant, les Israéliens n'acceptent de travailler avec personne côté palestinien. Mais il est un des très rares avec lesquels les gens de la sécurité israélienne ont déjà travaillé et qui a fait ses preuves lorsqu'il gérait Gaza. Vous savez, dans la série Faouda, il y a un personnage qui est inspiré de Darlan, hein, c'est ce chef de la sécurité du côté palestinien. Et on voit très bien cette espèce de complicité, de frère d'armes avec les Israéliens. C'est des gens, ça s'appelle une collaboration, hein, dans un sens négatif, si on voit un sens négatif, ou dans un sens positif, si on souhaite une évolution pacifique des deux pays.
C'est fait. Alors, l'autre aspect de l'interview que je voudrais aborder avec vous, c'est votre activité personnelle, puisque vous partagez votre temps entre Israël et la France. Et quand vous êtes en Israël, et peut-être même quand vous êtes en France aussi, vous avez des contacts à un certain nombre d'Israéliens arabes ou palestiniens d'Israël, comme on les appelle maintenant, avec lesquels vous vous rencontrez. Vous avez ce qui m'intéresserait d'entendre de votre part, c'est la façon dont ces Israéliens arabes vivent le conflit depuis 5 mois.
Oui, alors je vais vous dire une chose. Si on est israélien, ou si on est juif, si on est en tout cas un ami d'Israël, il y a une chose qui est positive, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, qu'on soit pour deux États ou qu'on soit pour l'annexion d'une partie de la Cisjordanie, il y a une chose qui est positive en Israël, et qui est à mettre à l'actif de tous les gouvernements qui se sont succédés au moins depuis 30 ans, donc de gauche et de droite, c'est l'intégration des Arabes, ce qu'on appelle les Arabes israéliens, et qui souvent eux-mêmes préfèrent s'appeler Palestiniens d'Israël ou Palestiniens de l'intérieur, parce qu'ils sont les descendants des Palestiniens qui ne sont pas partis en 1948. Et c'est vrai que, après avoir subi le régime militaire, ils ont depuis 1966, ils ont progressivement été émancipés, ils ont des députés à la Knesset, ils ont même participé à la coalition Bennett-Lapide par l'intermédiaire du dirigeant Mansour Abbas, qui a décidé de choisir de soutenir cette coalition. Donc il y a une évolution, une intégration des Arabes israéliens ou des Palestiniens d'Israël, il y a une bourgeoisie palestinienne à l'intérieur d'Israël, avec des médecins, on l'a vu pendant le Covid, hein, des médecins juifs et arabes qui ont combattu ensemble le Covid, des pharmaciens, on en voit beaucoup à Tel Aviv, à Yafo, à Bat Yam, ils habitent, voilà. Donc il y a tout ce phénomène, et c'est quand même quelque chose qui a résisté à la guerre. On pouvait avoir beaucoup de craintes après les émeutes de juin 2021, hein, au moment où il y avait eu des émeutes attisées par les uns et par les autres, hein, aussi bien par le Hamas que par l'extrême droite israélienne, et on pouvait avoir beaucoup de craintes sur la paix sociale dans les quartiers mixtes, dans les villes mixtes d'Israël, et que ce soit à Ramleh, que ce soit à Haïfa, que ce soit à Yafo. Pour l'instant, hein, je touche du bois parce que tout ça est très fragile, mais pour l'instant, eh bien, la cohabitation continue, et les Arabes d'Israël ont été ceux, et de très loin, qui ont condamné le plus massivement, je parle si on compare aux Arabes des autres pays, je ne parle même pas de ceux des territoires palestiniens occupés, mais des Arabes d'Irak, d'Égypte, partout, qui sont félicités des attentats du 7 octobre, ceux d'Israël ont manifesté dans une très grande majorité leur dégoût, leur colère, leur incompréhension, leur défiance et le fait qu'ils ne voulaient pas être assimilés au Hamas. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a fait des sondages en juin 2023 demandant à cette population palestinienne d'Israël si elle se sentait intégrée, ils étaient environ 48-50% à dire qu'ils se sentaient intégrés. Et puis, après le 7 octobre, ils étaient 77%. Alors, tout ça a une valeur relative, mais ce qui est clair, c'est que les dirigeants arabes israéliens représentés à la Knesset, que ce soit Ahmed Tibi, que ce soit Ayman Odeh, que ce soit Mansour Abbas, ont tous dénoncé extrêmement clairement les attentats du 7 octobre. Et celui qui est allé plus loin, c'est Mansour Abbas, hein. C'est Mansour Abbas qui a dit que c'était contraire à l'islam, que ces massacres étaient, les massacres de civils étaient contraires à l'islam, et qui a demandé très tôt d'ailleurs, dès le mois de novembre, il a demandé au Hamas de déposer les armes et de rendre les armes, de déposer les armes et de les rendre à l'autorité palestinienne, ce qui lui a valu une volée de bois vert côté arabe, et ce qui lui a pas valu plus de soutien d'ailleurs de la part de ceux qui gouvernent Israël aujourd'hui. Mais disons qu'on a eu une réaction, on a vu des gens comme Ahmed Tibi, qui pourtant qui n'est pas un modéré, enfin, qui est quelqu'un qui est un nationaliste intransigeant. Ahmed Tibi allait à l'enterrement de cette militante pacifiste Viviane, qui a été assassinée par le Hamas. Donc ils se sont démarqués vraiment clairement du Hamas, mais en même temps, ils sont aussi palestiniens. Et ce sont leurs cousins, ce sont des gens de leur famille qui sont tués à Gaza. Donc ils sont écartelés. Et dans les discussions qu'on a l'autre jour, il y a une palestinienne des territoires, hein, pas de l'intérieur d'Israël, mais des territoires qui a dit... une palestinienne de l'intérieur d'Israël, par contre, qui a dit que c'est une guerre entre mon peuple et mon pays. Et c'est ce qui est dramatique, c'est que ce sont des gens dont le pays est Israël, qui parlent hébreu depuis 3-4 générations, qui vivent avec des juifs, donc qui savent que les juifs ne sont pas des monstres, mais qui en même temps sont solidaires, c'est normal, des Palestiniens. Donc ils ont une double identité, une double allégeance. Et nous, juifs, qui avons toujours connu ça en diaspora, être minoritaire, on peut avoir une compréhension et de la sympathie. Et je pense que c'est important de maintenir ce lien, de le renforcer et de montrer, quelle que soit la position qu'on ait, un État, deux États, etc., en tout cas, ce lien doit être maintenu, hein, quelle que soit la position politique qu'on a. Si on veut du bien à Israël, je pense qu'on doit entretenir et maintenir ce lien et respecter les citoyens palestiniens d'Israël, dont certains d'ailleurs ont été tués le 7 octobre.
Très bien. Bon, écoutez, c'est sur ce souhait que nous allons achever notre émission. Merci, Michel Todman. Et à nos auditeurs, je dis à dans 15 jours pour la prochaine émission de Chronique pour la paix.